rentrer dans une analyse de ce qu'on pourrait appeler l'œil académique. Cette formule étant une transposition de la formule qu'employait Baxandall dans son très beau livre L'œil du Quattrocento. Et Baxandall, dans ce livre d'Ampère, essaie de reconstituer le point de vue et la vision des spectateurs du Quattrocento, avec à partir d'une analyse fondée à la fois sur l'analyse des œuvres et sur l'analyse de l'environnement des œuvres, par exemple les sermons d'époque ou les guidances, beaucoup de choses, autant de choses qui ne sont pas à première vue présentes dans le tableau. Alors, pour comprendre l'art académique, d'une manière qui ne soit pas, qui soit aussi peu que possible biaisée par notre regard, par le regard que nous portons sur lui, c'est-à-dire par la vision du monde, la vision de la peinture, qui a été en partie le produit de la révolution opérée par Manet et les impressionnistes, il faut, me semble-t-il, revenir à la fois au contexte et au texte, le contexte étant essentiellement constitué par l'institution académique. L'institution académique comme institution universitaire et la thèse que je soutiendrai, c'est que l'art pompier est un art académique tel qu'on peut pratiquement le déduire d'une analyse du fonctionnement de l'institution académique. Et cet art pompier, en tant qu'art académique, présente des caractéristiques invariantes de toutes les productions produites par un corps académique, le mot corps est extrêmement important, par un corps universitaire. Il y a donc des propriétés invariantes, autrement dit, à analyser l'art pompier, selon le mode de pensée que j'applique, c'est aussi analyser la pensée académique. Là, on est dans le problème de la réflexivité. On peut se servir d'une analyse de l'art pompier pour mieux comprendre la pensée académique, à condition évidemment de mettre la pensée académique en jeu d'emblée dans l'analyse, c'est-à-dire de ne pas s'exclure en tant que moi académicus de l'analyse que l'on fait d'une production académique. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que j'ai lu à peu près la littérature sur la question. Cette thèse élémentaire, qui me semble-t-il me paraîtra évidente, n'a jamais été clairement reprise, sauf, comme je l'ai dit la dernière fois, par Thuillier, mais comme je l'ai dit aussi la dernière fois, Thuillier se sert de son intuition du monde académique, tel qu'il l'a connu, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles, pour analyser les ateliers et leur fonctionnement, mais il ne procède pas à une analyse de l'instrument d'analyse et il se sert au fond d'une expérience naïve, indigène, comme analyseur, sans analyser cette expérience qu'il utilise pour l'instrument d'analyse. Alors, on pourrait, et ça a été beaucoup fait, rapporter l'art pompier aux conditions sociales objectives. Et c'est à ça souvent qu'on assimile la sociologie. La sociologie de l'art, je répète inlassablement c'est ce que je veux dire, parce que c'est la chose la plus difficile, la plus incomprise dans le groupe de travail que j'essaie de faire à propos de tous les univers de production culturelle. Il s'agit de l'univers du droit, de l'art, de la littérature, etc. Dans tous les cas, il me semble qu'il faut chercher le principe d'explication et de compréhension des productions de ce type, non pas dans le monde social, dans son ensemble, qu'on fait certaines traditions marxistes, Foucault, chez Goldman, etc., mais dans l'univers relativement autonome des producteurs, dans ce monde social, ce microcosme social qu'est le champ littéraire, le champ artistique, etc., et dans le cas particulier, le monde académique. Donc, c'est dans une analyse du monde académique qu'on trouvera la vraie explication. Cela dit, il est certain qu'on peut comprendre un certain nombre de fonctions de l'art académique dans, dans la mise en relation avec le contexte social, parce que l'on considère comme l'analyse sociologique comme typique de l'analyse sociologique des productions culturelles. On va dire donc que la valorisation de l'art académique, telle qu'elle s'instaure après la Révolution et l'Empire, cette valorisation s'inscrit dans une entreprise de restauration culturelle par laquelle, après les crises de la Révolution et de l'Empire, des régimes politiques en quête de légitimité visent à rétablir un contrôle central sur la production culturelle et artistique par le retour à des normes classiques rigides et d'autre part, vise à créer une élite détentrice de la légitimité statutaire en matière d'art. C'est-à-dire qu'il y a dans la restauration de l'art académique une intention quasi explicite du corps social ou de ceux qui le dirigent de restaurer un art d'ordre. Dans une entreprise de maintien de l'ordre symbolique. Donc cet art, né pendant la Révolution, avec David, qui le tenait l'enseignement de Rome, ajusté au goût des nouvelles couches issues de la Révolution de l'Empire, l'art académique s'est défini d'emblée contre l'art aristocratique du XVIIIe siècle. Ça a été beaucoup remarqué. Cet art aristocratique du XVIIIe siècle est tenu en suspicion pour des raisons autant morales qu'esthétiques, et le retour aux normes de représentabilité dite classique, cette restauration d'une continuité avec l'art académique par-delà de la culture du XVIIIe siècle a une fonction sociale donc très vite. Le statut fait à la peinture du XVIIIe siècle, je renverrai aux travaux de Haskell, Francis Haskell, son très beau livre, je pense qu'il traduit en français, le registre original, enfin la redécouverte dans l'art. C'est une sorte d'histoire sociale de l'art, donc Francis Haskell, qui est paru à Londres en 1976, dans cette histoire sociale du goût, telle qu'il se révèle à travers la peinture elle-même, Haskell rappelle que le statut de la peinture, Haskell s'écrit H-A-S-K-E-2-L, Francis Haskell, donc dans son histoire sociale du goût, Haskell insiste sur le fait que au début du XIXe siècle, la peinture du XVIIIe siècle a cessé d'être recherchée pour elle-même. Et pour en donner un indice, dans Le Puy d'Alphonse, le roman de Balzac, le Puy d'Alphonse fait un cadeau, offre un éventail peint par Watteau, et il ne suscite que de l'indifférence de la part de ses hôtes, qui ignore jusqu'au nom du peintre. Et la peinture du XVIIIe siècle sera réhabilitée, d'une part par les peintres, mais aussi par un certain nombre d'artistes comme les Moncourt, qui affrontent le mépris dont la peinture du XVIIIe siècle est entourée, parce qu'elle menace les principes de l'ordre académique, et par exemple, on voit, comme le montre Haskell, que la cote de Watteau remonte à la monarchie du Juillet, parce qu'on y voit un ancêtre supposé de Delacroix et des romantiques, ce qui, du même coup, vaut à cette peinture le mépris de l'ordre académique, qui y voit une menace pour l'ordre académique et politique. La peinture du XVIIIe siècle était plutôt le fait des aristocrates que des nouveaux riches bourgeois, de nouvelles bourgeoisies. Et de façon très générale, je suis toujours ici Haskell, et aussi d'autres auteurs comme Rosenblum. Rosenblum, je ne sais plus son initial secrétaire pour SNB LUM, la peinture sur le consulat et l'Empire dans un livre intitulé De David de la Croix, la peinture française de 1774-1830, Paris, édition des musées, de ce que j'ai dit, 1934. Bon, Rosenblum insiste, enfin, un peu confirme tout à fait ce que dit Asker. Et donc les canons classiques sont restés si puissants, en partie grâce à la restauration donc, académique, que l'art hollandais, par exemple, reste vu au travers des nombreuses perceptions académiques. Et comme le rappelle encore Haskell, page 61-83 du livre que je viens de citer, cet attachement au canon académique empêche de percevoir la continuité entre Guizdal, Rousseau ou Corot, qui nous paraît relativement évident. Et de la même façon, pour citer un autre grand commentateur qui a fait des délits chronologiques de l'extraordinaire sur Manet, je vous en ai parlé, Michael Fried, F-R-I-E-D, a écrit un livre qui s'appelle Absorption. Calibi a montré un livre sur l'intériorité de la peinture du XVIIIe siècle, la peinture de l'intériorité, des personnages en train de lire, toute une sorte d'exégèse de la peinture du XVIIIe siècle qui, si elle est vraie, explique aussi la résistance des amateurs de peinture pompier, qui est pour le contraire, dans l'une est intérieure, dans l'autre est extérieure, dans l'une est intimiste, dans l'autre est théâtrale, etc. Voilà. Donc, cette peinture du XVIIIe siècle est abandonnée aux aristocrates, et au contraire, la peinture mère pompier est. Soutenu par la bourgeoisie et de transification. Donc, insister sur le fait qu'il y a un champ autonome, ce n'est pas dire ces champs sont toujours relativement autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement indépendants des conditions économiques et sociales de leur production et de leur réception. Cet art pompier est soutenu de manière très directe par les dirigeants de la banque, de l'industrie et de l'État, qui sont parmi les gros acheteurs de peinture pompier, et leur clientèle fortunée contribue à expliquer une des caractéristiques extraordinaires de cette peinture, ce sont les coûts extraordinaires auxquels elle atteint. Donc, il ne faut pas nier qu'il y ait une influence directe de cette bourgeoisie sur le salon, où les goûts de ces bourgeois sont connus, puisque les tableaux qu'ils avaient achetés étaient exposés avec leur nom, ce qui était important, c'était de la conspicuous consigne typique, et acheter un tableau, c'était faire savoir qu'on l'a acheté en autre chose, en les exposant avec le nom de l'acheteur. Mais aujourd'hui, ça se passe toujours. Les grandes ventes sont annoncées nominalement. Ouais. Donc, en dépit de tout ce que je viens de dire, s'il est vrai donc que l'art académique répond en quelque sorte aux attentes d'une bourgeoisie de nouveaux riches, etc., s'il est certain qu'elle a un soutien, il n'en reste pas moins que. On ne peut pas comprendre son esthétique. On va comprendre son esthétique, qui est en fait une éthique, comme toutes les esthétiques, sans se référer à l'institution à l'intérieur de laquelle elle est produite. Et on pourrait dire que c'est dans l'institution académique et dans la logique de son fonctionnement que réside le véritable principe de l'esthétique académique. Au point que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait déduire cette esthétique de la logique du fonctionnement académique, et c'est ce que je vais essayer de faire. Bon. Oui, alors cette esthétique, il faudrait en faire la généalogie historique, et là, je vous citerai un article de Joseph Jourt, est-ce que je trouve cette référence Nous avions pas fait un papier. Oui, c'est ça. Intitulé La peinture et le paradigme littéraire au XVIIe siècle, dans Papers on French 17th Century Literature, volume 19, numéro 26, 1987, page 62-81, où il montre, je rappelle très vite sa thèse, que l'esthétique académique est une esthétique normative et qui entend fonder en raison non seulement les règles d'exécution, mais la conception même de l'œuvre. Et cette esthétique, donc, normative, s'inscrit dans le prolongement de la tradition théorique de l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648 et refondée en l'Académie qui dit tout à l'heure. Donc, cette Académie royale de peinture, au nom d'une vision strictement hiérarchique, alors cette hiérarchie est extrêmement importante, du système des arts, tire de la littérature et plus précisément, ça je crois c'est l'accord très important de l'article de Joseph Hume, qui est un historien de la littérature, qui donc a regardé la peinture à partir du point de vue de la littérature, et ça c'est extrêmement important pour une peinture littéraire, et beaucoup de, dans beaucoup de cas, les interprétations sont rendues difficiles par la division en disciplines. Il y a des fous de cas, en particulier la Révolution de Manet, où on ne peut pas comprendre si on reste dans les limites d'un champ, d'un niveau où c'est par la collaboration entre les champs que s'élabore, par exemple, la Révolution de Manet, ou par la mise en relation du champ littéraire et du champ esthétique, qu'on peut découvrir les principes de construction et de perception des œuvres académiques. Donc, cette esthétique académique, selon Joseph Hume, s'enracine dans une poétique du drame, c'est-à-dire qu'elle prend ses critères d'interprétation et d'évaluation dans la poétique du drame, avec des critères comme la vraisemblance et l'unité d'action. Et bon, il y a toujours la théâtralité, je vous parlerai si j'ai le temps très brièvement d'un tableau de Jérôme qui paraît très typique, d'un tableau de peinture d'histoire, qui est qui s'appelle L'Éminence grise, qui est typiquement une scène de théâtre peinte. Et on rencontre aussi une des choses que je vous avais dites, enfin, Manet, comme le disait Lindbergh, rompt avec la sculpture, mais il rompt peut-être encore plus avec le théâtre. Et ils rompt avec le modelé, le volume, etc., le relief, etc., la sculpture, mais ils rompt aussi avec le théâtre. Voilà. Alors, cette tradition de l'académie, mais au-dessus de tout, la grande peinture d'histoire, les thèmes antiques et la hiérarchie des œuvres correspondant à la hiérarchie des objets. Ce qui reste vrai grandement dans un art, encore aujourd'hui, dans un art comme la photographie. Et la photographie a eu beaucoup de mal à constituer une esthétique telle que la valeur d'une œuvre ne soit pas proportionnée à la valeur des objets représentés. Voilà. Alors, donc, cette généalogie historique dans le canon que propose Hume est importante. Surtout, je crois, à travers le thème théâtral. Mais l'Académie de peinture et de sculpture, dans sa forme moderne, fondée en 1816, est une émanation, c'est une institution de consécration, mais qui se prolonge dans une institution pédagogique. Autrement dit, l'école des beaux-arts et l'académie de Rome sont très rapidement tombés sous la coupe de l'académie. L'académie n'étant plus, c'est comme si aujourd'hui le Collège de France, la Sorbonne, etc., dépendait de l'académie, comme si les membres de l'académie étaient eo ipso professeurs, desservaient des titres, opéraient des écoles, formaient, étaient professeurs dans les CAI, dans les CAI. Donc c'était une institution complètement intégrée. Et voilà, en gros j'ai dit l'essentiel, donc l'institution académique se prolongeait dans une instance pédagogique et plus encore dans une instance, on pourrait dire, commerciale, ce qui est très important, dans la mesure où le salon n'était pas simplement un lieu de consécration, mais aussi un lieu de consécration grande. Et c'est une sorte de système soviétique, enfin, je veux dire, un système totalement intégré, où les maîtres contrôlent toute la logique de la vraie production, voilà, depuis la conception à travers le système scolaire, les programmes, les manuels d'école, etc. Bon, malheureusement, dans mon travail, je n'ai pas, c'est une chose, c'est une grosse lacune de mon travail, mais enfin, je n'ai pas pu étudier encore les manuels qui étaient utilisés dans les écoles, je n'ai plus connaissance. Et je regrette parce que je pense que beaucoup des choses que je vous dis, que je vais vous dire, auraient été précisées et raffinées par l'analyse du contenu. J'ai un peu idée de seconde main de ce qui contient, mais je ne les ai pas physiquement manipulés. Bon. Alors, cette institution donc, académique intégrée ce fonctionnement, cette institution consiste en une série continue de concours couronnés par des récompenses honorifiques, dont le plus important est le concours annuel du Grand Prix, qui assure au premier Grand Prix un séjour à la Villa Médicis. La logique du concours qu'on connaît bien commande tout le système, et du même coup, on retrouve tous les traits des systèmes produits par des corps et destinés à reproduire des corps, comme des systèmes d'état préparatoire. L'analogie, donc, je vous ai donné la référence de pilier, on retrouve un certain nombre de propriétés fondamentales. Par exemple, la docilité extraordinaire que suppose et renforce chez les élèves la compétition, les attentes forcenées qu'elle inspire. La dépendance infantilisante dans laquelle sont tenus les élèves à l'égard des maîtres, ça c'est le premier grand caractère. Deuxième, c'est la normalisation, ça j'y reviendrai, la normalisation de la production, c'est une production que la formation collective en atelier, les rites d'institution, etc., les hiérarchies liées à l'ancienneté et à la compétence, le cursus aux étapes et aux programmes complètement organisés, tout conduit à faire des zones normalisées. On cite toujours le texte de Thomas Bernhardt à propos des professeurs. On peut y penser. Thomas Bernhardt disait que les professeurs sont des hommes normalisés, au sens de standardisés, hein, et produisant des produits standardisés, des produits standards, tout ça est inscrit. Voilà. Alors, là, très vite, bon, le temps passe tellement vite. Je voudrais vous évoquer un certain nombre de choses sur le fonctionnement des ateliers. Grâce à un livre que j'ai évoqué la dernière fois, le titre du livre, c'est The Studios of Paris, les ateliers de Paris. À la fin du XIXe siècle, New Haven, l'Université Press, 1990. Alors ce livre, qui est assez anecdotique et décousu, fournit un ensemble de traits descriptifs extrêmement intéressants, qui sont pris dans des mémoires d'élèves essentiellement, et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il exploite des mémoires d'élèves anglo-saxons. Alors, j'ai complété de Paris à l'époque, c'était que, étant capitale des arts, il y avait dans les ateliers une proportion très importante d'élèves étrangers. Et cet auteur, dont j'espère que je retrouverai le nom, a exploité des mémoires. On voit les rites d'initiation, les rites de passage, etc. Alors, je vous l'évoque très vite. Je évoque très vite les caractéristiques de cet enseignement. Donc, comme dans toute institution totale, selon le langage de Goffman, les quatre préparatoires sont des institutions totales typiques, comme la caserne, la prison, etc. comme dans la plupart des régions totales, le nouveau est soumis à des rites initiatiques. Ils doivent payer ce qu'on appelle le bienvenu, c'est-à-dire des boissons accompagnées de brioches. Les élèves sont par classe de entre 18 et 25 dans l'académie Julian sur laquelle s'est concentré les studios de Paris. L'académie de Julian comportait entre 15 et 25 élèves, ce qui a des conséquences importantes. Qui travaillent du matin 9h ou 8h jusqu'à 16h, bon, ce qui est aussi une caractéristique de l'institution totale du type scolaire. On travaille très intense, à des exercices typiquement scolaires. Tous les élèves sont placés selon des rangs hiérarchiques. C'est important que le massier, qui est un élève élu par les autres élèves, choisit le point de vue qu'il préfère. Même les élèves votent pour choisir la pose qu'ils demandent au modèle. Le massier choisit le point de vue qu'il préfère et chacun ensuite prend sur le modèle. Qui peut être une place ou un modèle vivant, il choisit en fonction de son rang dans les épreuves au concours. Bon, alors, ce qui est important, c'est que, comme dans les classes préparatoires, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit du tout dans les souvenirs de Cuvier, la hiérarchie est présente à tous les instants. Par exemple, là, la distance au modèle est une retraduction du ranking dans les épreuves de la semaine antérieure. Donc, alors évidemment, le rappel de la hiérarchie est un rappel permanent à l'émulation. Par exemple, les grands patrons de l'époque, les grands patrons, Jérôme, Bonnard, Gustave Moreau, Bougros, etc., passent régulièrement dans les ateliers. On a des tas de caricatures où on les voit en train de discuter avec l'élève. Parfois, ils s'assoient à la place de l'élève, ils prennent sa place et retouchent l'heure, donnent des conseils, etc. Et des conseils sont extrêmement importants, j'y reviendrai. On sait des tas de choses, ce sont des gens très bien mis, etc. La quantité absolue du rappel Bohème. Par exemple, parmi les conseils que donnait Jérôme, il y avait l'impératif de propreté. Il faut nettoyer le pinceau, très soigneusement, il ne faut pas gaspiller la peinture. Enfin, bon, les tableaux qui sont très importants. S'il est vrai, comme je le disais en commençant, que l'esthétique a quelque chose à voir avec l'éthique. Donc, il y a une éthique de l'économie, de l'épargne, de la rigueur, de la propreté. En particulier, la propreté étant connotée à la fois sexuellement et éthiquement. En particulier, les peintures des impressions sur les manettes sont considérées comme simples, faciles, comme on dit faciles, une femme facile, bon, elles sont faciles, donc corrompues, corrompues, manquant essentiellement à l'esthétique. Bon. Voilà. Alors, Jean Moreau, qui est un écrivain qui a commencé sa carrière comme rapin à Paris, ayant évoqué tout ça, dit à peu près après 2 années, il peignait tous, il peignait et dessinait tous de la même manière. Chacun avait cette basse exécution. Ils appellent ça exécution, c'est un mot extrêmement important. Ils appellent ça exécution. Alors, en français, la peinture au premier coup. Autrement dit, il insiste sur l'homogénéité, la standardisation, et cette standardisation, il la réfère à l'exécution. Bon, portrait de Jérôme, très vite. Jérôme était toujours scrupuleusement ponctuel, ce qui est une position de la vie d'artiste, c'est le flou temporel, c'est une propriété. La bohème, c'est l'inversion des rythmes temporels. Les bohèmes vivent pendant que les bourgeois dorment. La vie de l'artiste. Jérôme donc était toujours très ponctuel. Il arrivait pendant 25 ans, 29 ans, il est arrivé toujours à la même heure dans les ateliers qu'il visitait. Il était très exigeant. Il attirait plus de respect que l'affection, entre guillemets. Il était enclin à traiter de la même façon tous les élèves, mais répète, enfin, qui parfois est propriété de l'enseignement dit républicain, c'est un mélange d'égalitarisme et d'aristocratie. Tous égaux, mais constamment rappelés à leur inégalité. Et d'autant plus absolument inégaux qu'ils sont plus absolument traités comme égaux. Donc ça, c'est tout fondamental des enseignements d'élite à la française. Bon. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a encore contre la pratique? J'essaie de vous donner la substance du livre, mais qui vraiment mérite d'être lu, c'est très long, tout ça. Oui, alors, sur le bizutage, il y a des foules de choses. Le bizutage, bizarrement, moi je peux raconter cette anecdote qui est prise dans mes souvenirs de bizutage de grande école. J'étais bizuté par Poujade, qui était actuellement le maître de je ne sais pas où, et qui m'avait donné comme sujet de réflexion monade et limonade. Ça, c'est typiquement la préparation. Les peintres faisaient des combats à l'épée dans lesquels les armes étaient des pinceaux. Et il y avait donc un pinceau bleu, un pinceau rouge, et on comptait le nombre de coups, de couleurs. Alors ces brimades n'étaient pas toujours aussi raffinées et intelligentes, peut-être une violence extraordinaire. Ça a une certaine importance. Elle était très inégalement supportée du point de vue de l'origine sociale des élèves. Alors là, j'ai Basile, par exemple, le bourgeois de Nîmes, protestant, a très très mal supporté, Manet a très mal supporté, en particulier le côté grossier, obscène, de ces brimades, qui a une fonction, qui se retrouve toujours dans tous les visiteurs, de ce type, qui a une fonction de ramener le nouveau présomptueux et prétentieux à l'universalité des mêmes conditions. Et le rappel de la sexualité, c'est une de ses fonctions, c'est montrer que tout n'est que, etc. Voilà. Alors, ce qui est, enfin, bon, ça serait trop, on s'en verra sur ce, ça mérite. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'atmosphère de l'atelier, donc, est génératrice d'une anxiété extraordinaire, comme toutes les entreprises soumises aux impératifs de compétition permanente. C'est une sorte de création continuée d'anxiété qui trouve sans cesse son renforcement dans son assouvissement. Si on est premier, il faut gagner la première place, si on est second, il faut gagner la première, pour faire bon, une sorte, c'est un système forcené, enfin, en un sens forcené. Et alors ce qui est important, c'est que c'est une partie de ces systèmes que, rétrospectivement, les gens adorent, sauf quelques exceptions. Hein. D'où le rapport malheureux, scientifiquement malheureux, à ces systèmes, lorsque on essaie de les utiliser comme instrument d'analyse. Bon. Donc, oui, alors ça c'est une chose qui est assez connue, bon, c'est à la fois par l'anthropologie et par la psychologie, paradoxalement, plus une épreuve initiatique est due, plus les souvenirs sont heureux. Et plus ça a été testé empiriquement, plus l'adhésion au corps est considérable, bon, et plus les souvenirs sont heureux. Bon, alors cette compétition forcenée qui ne marche qu'avec la collaboration de ceux qui subissent l'oppression, c'est un exemple typique de violence symbolique. Hein. Les gens sont brimés, ils en demandent. Hein, et ils collaborent de telle sorte que le cœur content à des épreuves qui sont censées les transfigurer. Et ils se vivent comme transfigurés. Bon. Alors, ce que je dis là, sur une opinion très générale, si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à l'Ordre des États, où j'ai fait un dépouillement systématique à l'époque où j'étais au GIP, il y a une dizaine d'années, de tous les travaux qui ont été faits sur les écoles d'élite dans des systèmes plus différents, en Birmanie, en Chine, etc. Dans l'enseignement mandarinal, d'où est venu le modèle des concours à la française, avec toutes les propriétés que je vais décrire à propos de l'enfermement dans des loges, etc., que je vais décrire à propos de l'enseignement des beaux-arts. Donc, ces écoles d'élite qui sont destinées à faire des hommes nouveaux, des hommes transfigurés, des hommes transformés par l'épreuve et par, surtout par la séparation que produit cette épreuve entre ceux qui ont réussi, qui ont échoué, qui ont fait l'école d'homme, ce qui n'ont pas fait. Ces enseignements mobilisent des ressorts très archaïques. Les rituels de visitage sont intéressants parce que bon, ils font voir, mais en fait, en même temps, ils cachent les rituels de visitage sur lesquels attirent l'attention, masquent que c'est l'ensemble de l'institution qui est elle-même un rituel d'initiation. C'est l'épreuve de latin, l'épreuve de grec, c'est l'épreuve d'histoire, c'est la visite du maître. Bon. Alors, une des fonctions, un des effets de cet enseignement, c'est de produire une adhésion totale, à l'institution totale, avec des conséquences, même qu'en Chine, les concours de mandarin, hein, ce sont des très souvent pour des suicides, de même chez les aspirants artistes, chez les rapins, il y avait de gros suicides. Alors, c'est toujours l'exemple du peintre Jules Holstapfel, tellement prononçable, qui se suicide, mais en disant les membres du jury me refusent, donc je n'ai pas de talent. C'est une splendide, si on veut, formule. Il y a encore aujourd'hui parmi nous des gens qui n'en finissent pas de liquider un échec au concours. Je pense que pour le principe explicatif des stratégies intellectuelles, c'est une des variables déterminantes. Les gens qui font semblant d'être dans une émission de parole, ou qui passent leur vie à rattraper pour eux-mêmes, pour les autres, un échec insurmontable. Toutes ces choses qui paraissent pathologiques sont socialement instituées et organisées. C'est la pathologie sociale organisée. Je pense que c'est très important ce genre d'analyse pour comprendre des choses que l'on met à distance à propos des sociétés archaïques. Il est très important de récupérer l'expérience de ces institutions magiques, productrices de croyances magiques et fondées sur la croyance magique dans la coupure magique entre les reçus et les collés. Par exemple, toute une monographie à faire sur le mythe du premier collé. Il y a un nombre incroyable de premiers collés. Tout ça est très important pour comprendre que dans ces institutions rationnelles, où on fournit des élites rationnelles, des énarques, des cliniciens, etc., toutes ces institutions reposent sur la magie.